La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a démarré en 2014 avec l'annexion de la Crimée par Moscou et la proclamation d'indépendance du Donbass par des séparatistes ukrainiens soutenus par les Russes, a pris une ampleur sans commune mesure il y a 2 ans avec le lancement par Moscou d'une guerre totale que le président russe Vladimir Poutine a nommée opération spéciale. La résistance des Ukrainiens a surpris et impressionné le monde, y compris les Russes. Aujourd'hui, 20% du territoire ukrainien est occupé et le front s'est transformé en guerre de tranchées, occasionnant des pertes énormes. Moscou et Kiev ne communiquent pas de chiffres, mais selon des estimations occidentales, entre 80 000 et 120 000 soldats russes pourraient avoir été tués et plus de 200 000 blessés. Des pertes 10 fois supérieures à celles des 10 ans de guerre en Afghanistan. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière que 31 000 soldats ukrainiens étaient morts. Les mêmes sources occidentales estiment que le nombre de tués ukrainiens entre 60 et 70 000 et autour de 170 000 soldats hors de combat. La Russie, 4 fois plus peuplée que l'Ukraine, dispose de réserves plus importantes de troupes. L'Ukraine, dont les pertes représenteraient jusqu'ici environ 1,5% de sa population masculine, bute depuis des semaines sur un projet de loi de mobilisation pouvant recruter jusqu'à 500 000 soldats. Sur le plan militaire, une contre-offensive déclenchée à l'été 2023 par l'armée ukrainienne a fait long feu et cette dernière se retrouve à nouveau sur la défensive, manquant de munitions face à des soldats russes plus nombreux et mieux armés. À la mi-février, les Russes ont réussi à s'emparer de la ville forteresse d'Advitka sur le front est et continuent leur poussée dans ce secteur. Alors que l'élection présidentielle russe doit se tenir dans moins de 2 semaines, le 14 mars, cela ne peut que favoriser la réélection de Vladimir Poutine pour 6 ans. L'émotion manifestée par des milliers de Russes après la mort suspecte en prison d'Alexei Navalny, le principal opposant au président russe, le 16 février, ne devrait pas avoir changé grand-chose à la situation. Du côté ukrainien, le président Zelensky, qui a limogé début février son très populaire chef d'état-major, exhorte quotidiennement ses alliés occidentaux à livrer plus rapidement une aide militaire qui fait défaut. La victoire dépend de vous, ne cesse-t-il de répéter. Problème? Les 60 milliards de dollars d'aide américaine promis par l'administration Biden à l'Ukraine sont toujours bloqués au Congrès du fait de l'opposition des élus républicains. Et la possibilité d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche après novembre prochain fait peser une interrogation majeure sur la poursuite du soutien américain. D'où un réveil tardif mais tous azimuts des Européens ces dernières semaines et jours. La semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu à Paris une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, essentiellement européens, pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Disant vouloir rétablir une, je cite, ambiguïté stratégique à l'égard de la Russie, pardon, il a expliqué que l'envoi en Ukraine de militaires occidentaux ne pouvait pas être exclu à l'avenir, même s'il a reconnu qu'il n'existait pas de consensus à l'heure actuelle. Ce qui lui a valu une prise de distance des alliés occidentaux et la mise en garde par Vladimir Poutine d'une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade. Cela a aussi suscité un tollé dans la classe politique française. Emmanuel Macron recevra demain les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande pour évoquer la situation et il réunira jeudi matin les présidents des principaux partis à l'Élysée. Un débat suivi d'un vote doit se tenir à sa demande au Parlement sur la question du soutien à Kiev, mais sa date n'a pas encore été fixée. Non, elle n'a pas été fixée, monsieur Bourlanges. La date du débat parlementaire. Ah, c'est mardi prochain. Le président français était aujourd'hui à Prague, où il a débattu d'une initiative tchèque en vue d'acheter jusqu'à 800 000 obus non européens pour l'Ukraine. Jusqu'ici, Paris était réservé sur ce type d'initiative, préférant attendre la montée en puissance de l'industrie de défense sur le sol européen. La question doit être à nouveau débattue jeudi et ces jours prochains, sans doute avant une visite d'Emmanuel Macron en Ukraine prévue à la mi-mars. Par ailleurs, le commissaire européen à l'armement Thierry Breton a présenté aujourd'hui un programme d'achat de munitions qui doit porter à 2 millions d'obus la capacité annuelle de production européenne contre moins de 500 000 avant le début de la guerre. Le but est de disposer à terme d'une réserve stratégique mobilisable à tout moment. À plus long terme, la Commission veut aussi participer au lancement de grands projets européens de défense dans les domaines comme le cyber, l'espace et la protection des fonds marins, après les sabotages de gazoducs en mer Baltique en septembre 2022, ce qui pourrait mobiliser un budget de 100 milliards d'euros. Nous avons donc choisi d'intituler notre débat « Deux ans après, quel défi pour l'Europe ?» Mais évidemment, quelle est la situation à l'heure actuelle en Ukraine ? Comment l'Europe peut-elle envisager ses relations avec la Russie pour les années à venir ? Quels impacts politiques, économiques, militaires, sociétaux cette guerre a-t-elle sur l'Europe et ses États membres ? Nous avons la chance pour cela d'avoir, on va commencer par l'honneur aux dames, Christine Dudouin-Clément, professeure associée à l'IAE Paris, Sorbonne, au centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan et celui de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et vous êtes spécialiste de cybersécurité de Russie et d'Ukraine. Et nous avons la grande chance d'avoir Jean-Louis Bourlange, député, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Christine Dugoin-Clément, je vais commencer par vous. On a dit avant l'été dernier que l'Ukraine était à l'offensive et que désormais ce sont les Russes. Est-ce que ça correspond à la réalité ?
Bonjour, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité ce soir. Alors, il y avait effectivement une attente sur une contre-offensive qui a été annoncée côté ukrainien, mais qui a fait l'objet d'attentes probablement un petit peu surévaluées, notamment de la part des Occidentaux, pour plusieurs raisons. Notamment, l'hiver était passé par là, on avait déjà un an de conflit, la Russie a eu le temps d'apprendre, dans la douleur certes, mais d'apprendre. Et elle a aussi eu l'opportunité hein, d'utiliser ce temps pour consolider ses positions sur les territoires occupés, notamment dans l'est de l'Ukraine, donc les territoires de Donetsk et Lugansk dans le Donbass, mais aussi sur les parties occupées sur les oblasts de Kherson et de Zaporijja, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une annexion par référendum dont les process ont été plus que mis en doute par la communauté internationale et notamment par les Européens et dont les Russes ne maîtrisent pas la totalité du territoire. De facto, l'Ukraine s'est retrouvée dans une position de devoir non plus protéger du territoire mais récupérer du territoire. Et dans une approche purement militaire, on sait que la position de défenseur est, je n'irai pas jusqu'à plus facile, mais est moins complexe ou en tout cas moins coûteuse à garder que celle de reprendre du territoire. Selon différentes estimations, on vous parlera de pertes qui peuvent avoir un ratio de 1 à 5 ou de 1 à 8 en termes humains. Donc on s'est retrouvé dans cette position inversée, donc avec une logique en sachant que ce serait une position qui serait bien plus compliquée. Malgré ça, les Occidentaux espéraient voir les gains territoriaux observés à l'été 2022, alors que la Russie avait certes grignoté du territoire, mais n'avait pas pu consolider ses positions. Vous avez tous, je pense ici, en mémoire, les images des différents champs de mines qui ont pu être posés, des différentes fortifications, ces fameuses dents de dragon, etc., qui rendent tout mouvement bien plus délicat, bien plus difficile. Donc il y avait cette aspiration-là qui n'a pas été au rendez-vous, mais par contre, et c'est là où un des premiers points qui m'amènera peut-être à la suite rapide de cette intervention pour essayer de ne pas monopoliser la parole, mais il a été beaucoup, l'accent a été mis sur le fait qu'on était sur une défaite ukrainienne. Effectivement, l'Ukraine n'a pas atteint des objectifs de reconquête territoriale attendus ou espérés, notamment par les Occidentaux. Cela dit, pour qu'il y ait une défaite complète, eh bien, il faut qu'il y ait une victoire de l'autre côté. Or, la Russie elle-même, je l'ai évoqué à demi-mot tout à l'heure, ne maîtrise même pas la totalité des territoires qu'elle a annexés et qui sont donc considérés par le Kremlin comme faisant partie du territoire russe. On peut donc estimer, légitimement, qu'un des objectifs de ces derniers mois de guerre était ne serait-ce que de récupérer le contrôle sur la totalité de ces territoires. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui veut dire que certes, l'Ukraine n'a pas atteint les objectifs, mais la Russie non plus. La Russie aurait pu atteindre ses objectifs si l'état final recherché, comme diraient les militaires, était uniquement de maintenir leur position sur les territoires occupés et de s'enraciner plus profondément. Ça n'a pas été le cas. Alors on a eu des grignotages très coûteux en matériel et en hommes, mais on n'a pas eu cette avancée ou cette reprise complète de territoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une défaite d'un camp contre l'autre, mais plutôt dans une partie nulle. Je vous parle de ça à la fin de l'automne 2022, même si évidemment il y a des moments clés, des moments phares, des batailles symboliques. Je pense que tout le monde se rappelle de Bakhmout, par exemple. Vous avez parlé de Avdiivka, qui a été une zone symbolique, hein. En 2017, pour ceux qui s'en souviennent, ça avait été un des lieux d'une des très grosses flambées de violence entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. Rappelons ici aussi qu'il y a quand même eu un soutien plus que véhément à ce niveau-là, hein, qui a été mis en place. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que si vous regardez le conflit depuis maintenant 2 ans, eh bien vous avez eu de grandes phases dans la perception du conflit, notamment au niveau des médias. On pourrait définir à grosses mailles, en coupant un petit peu dans les virages, vous m'en excuserez, mais cette grande phase où on est passé, avec assez peu de transition, ma foi, de l'un des adversaires va remporter une victoire sur l'autre. Et ce que l'on peut observer, c'est que finalement les éléments qui font ces modifications de perception correspondent à peu près au même paradigme, mais que ce que l'on observe, c'est que chaque phase a une tendance à s'allonger dans le temps. Et ces paradigmes-là, bah, c'est exactement ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire qu'on va se rattacher à un moment qu'on estime être éminemment symbolique. Par exemple, Bakhmout, si on le prend, qui a été un siège qui a duré extrêmement longtemps avant que la Russie n'arrive à remporter cette victoire sur une ville d'importance moyenne. Et on en a fait un symbole énorme. Alors évidemment, quand vous êtes au plus fort du conflit, quand vous perdez vos proches, quand vous perdez de la famille d'un côté ou de l'autre, bien évidemment, rien n'est symbolique et tout est dans votre chair. Cela dit, un conflit est non linéaire. Le temps d'un conflit n'est pas forcément celui d'une lecture à chaud. Il est multivectoriel. C'est pas un seul élément qui fera basculer d'un côté ou de l'autre. Et on a eu tendance à prendre un point symbolique comme étant un symbole ou comme étant le marqueur d'un virage donné sur ce conflit-là. Et on a eu ce ralentissement parce que le rythme du conflit lui-même a fait l'objet d'un ralentissement avec ce que vous avez évoqué, hein, c'est-à-dire ce système de renfort, cette guerre de tranchées. On est beaucoup plus dans une guerre d'usure où on va travailler sur ce qu'on appelle le rapport, donc le rapport de force des uns et des autres, principalement en artillerie, avec des besoins qui sont, rappelons-le, colossaux. Hein, vous avez des estimations qui sont en poids moyen à 5000 obus en 155 jours et qu'on peut monter jusqu'à 10 ou 15 000. Donc si vous faites un rapport par rapport à la capacité de production, ça vous donne une idée. Et si vous avez la curiosité d'aller regarder les travaux de photoreporters sur la zone, c'est une zone qui est à l'heure actuelle ravagée. Il y a une photoreporter, Gaëlle Girbe, qui a récemment diffusé des photos de drones de toute la zone du conflit. C'est une terre noire, pas au sens comme probablement beaucoup d'entre vous en ont entendu parler à l'école sur la terre noire fertile de l'Ukraine. C'est une terre noire parce que c'est une terre brûlée et ravagée.
Relativement à la Première Guerre mondiale, c'est comparable, c'est beaucoup plus. C'est en termes de d'utilisation de l'artillerie, de nombre d'obus tirés, c'est quoi?
Alors, en fait, le conflit en Ukraine, il a deux particularités. Le premier, et vous en avez encore une fois, je vais répéter ce que vous avez très certainement entendu, mais il a signé le retour de la guerre de haute intensité, une guerre que l'on pouvait qualifier quasiment de traditionnelle, si ce n'est à l'ancienne, avec deux armées qui vont s'affronter avec un combat direct et un rapport d'artillerie. Mais c'est pas uniquement ça, et c'est ce qui avait notamment été souligné par le général Zaloujny, qui était l'ancien commandant des forces ukrainiennes, qui a été récemment remplacé par le général Sirski. Et en même temps, vous allez avoir un mélange d'une guerre du 21e siècle, où vous allez avoir des attaques cyber, où vous allez avoir de la guerre électronique, qui en règle générale sont particulièrement efficaces quand elles fonctionnent de concert. Et tout cela va se gérer en même temps. C'est-à-dire que vous avez en parallèlement un conflit très, très à l'ancienne, si vous me permettez cette expression-là, et en même temps quelque chose d'éminemment moderne où vous avez une capacité à créer de l'innovation que l'on n'avait jamais vu au préalable. Un exemple tout simple est l'utilisation des drones, alors qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens, dans ce conflit, mais le détournement de technologies civiles pour des fins militaires qui a notamment été mis en œuvre avec le soutien d'une société civile particulièrement active. C'est un des exemples de cette capacité d'innovation que l'on a pu voir. Un autre volet, par exemple, ça a été l'utilisation d'infrastructures civiles nucléaires comme pouvant être un objet de dissuasion, voire de chantage pour faire céder non seulement l'adversaire, mais les soutiens d'un adversaire. Vous allez me dire, évidemment, on ne l'avait pas vu préalablement, puisque dans les conflits préalables, on n'avait pas forcément d'infrastructure nucléaire civile. Mais on a néanmoins passé un cap dans la conflictualité. On a beaucoup parlé de guerre.
C'est-à-dire la centrale de Zaporizhzhia.
Oui, la centrale de Zaporizhzhia qui est passée sous contrôle russe. Mais il faut se rappeler que au tout début de la guerre, les forces russes avaient essayé de prendre le contrôle sur les différentes emprises, soit nucléaires, soit aussi de dépôts, et notamment autour de Pripyat ou Tchernobyl, pour pouvoir récupérer tout ce qui était stockage de déchets nucléaires. Donc on a été sur un enjeu extrêmement fort. Ce conflit-là, le troisième niveau, alors on a beaucoup parlé de guerre hybride, même si la terminologie fait débat chez les spécialistes, vous avez ce volet sur le terrain, cinétique, vous avez ce volet dématérialisé, qu'on parle d'attaques cyber qui vont viser des systèmes, alors que ça soit une banque, que ça soit une centrale électrique, etc. Vous avez un jeu sur la scène internationale où vous allez envoyer de la dissuasion pour essayer de faire en sorte que tout simplement les soutiens de votre adversaire ne soutiennent plus. Dans le cas de l'Ukraine, il y a une dépendance très forte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des Occidentaux. Et puis vous avez tout un volet informationnel qui ne peut absolument pas être négligé et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une restructuration massive au niveau du Kremlin par certains des services qui étaient en charge de ce type d'opération, le GRU et le FSB, pour ne pas les citer par exemple.
Eh bien, merci. Jean-Luc Bourlange, est-ce qu'il y a un risque de défaite des Ukrainiens? Est-ce que les signaux d'alerte qu'on a en ce moment correspondent à quelque chose? Comment vous voyez la situation?
Écoutez, je ne suis pas du tout un spécialiste des questions militaires, donc j'aurais beaucoup de difficultés à répondre avec compétence à votre question. Ce que je crois, c'est qu'il faut inscrire ce qui s'est passé, qui a été très bien analysé par vous à l'instant, dans une dramaturgie où on voit que nous sommes un peu gouvernés par des illusions successives. Moi je suis de ceux qui avaient annoncé de façon très claire dans les semaines qui précédaient que Poutine interviendrait. Alors je ne suis pas particulièrement doué. Mais il se trouve que j'ai un certain nombre d'amis, qui notamment de fonctionnaires, qui ont fait notamment une carrière à la charnière de la Cour des comptes et du ministère des Affaires étrangères, notamment du Centre d'analyse et de prévision, et qui suivaient de très près les déclarations de Poutine au cours des mois précédents. Et dès le mois de juillet, un certain nombre, deux d'entre eux en tout cas, m'ont dit les discours de Poutine sont extrêmement inquiétants. On voit qu'il a une ambition impérialiste évidente sur l'Ukraine et je pense qu'on s'oriente vers une confrontation. Et quand en novembre, a envoyé son projet de traité, son projet de modification du traité de l'OTAN, un de mes camarades m'a dit ça ressemble au télégramme ultimatum de l'Autriche à la Serbie en juillet 1914. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, il va vous en cuire. Et j'avais donc là, vraiment le sentiment qui était assez peu répandu, je dois dire, même des gens très intelligents et qui étaient très avertis des choses, en doutaient, comme je pense à Pierre Aski, j'ai eu des discussions avec lui, il n'a jamais exclu du tout, mais il pensait plutôt que ça ne se produirait pas. Et là, bon, ça s'est produit, le président de la République, je ne sais pas ce qu'il en pensait, je ne sais pas, je crois qu'il a eu tout à fait raison d'aller à la grande table, cette grande table
Moscou.
Blanche, qui reste dans toutes nos mémoires, je crois qu'il fallait jouer au maximum la carte de la paix. On voit à quel point, quand on voit les ravages de la guerre, le peuple concerné, et même pour nous, on se dit que oui, il fallait absolument jouer à fond la carte de la paix. A-t-il eu l'illusion qu'il pourrait convaincre Poutine? Je n'en sais rien. Mais en tout
vous n'avez
cas,
pas parlé avec lui.
Comment?
Vous n'en avez pas parlé avec lui.
Non, mais je parle assez peu au président. C'est très triste pour moi. Pour lui, c'est pas très grave.
Ah, manifestement, c'est grave pour lui aussi.
En tout cas, c'est ainsi. Et en revanche, là, quand les Russes sont intervenus, alors là, j'ai eu le sentiment, je ne suis pas un spécialiste, j'ai fait tout de suite un article, une interview dans le journal du dimanche de l'époque, je dirais, dans le journal du dimanche de l'époque, et où j'ai dit que deux choses, j'ai dit que de toute manière, c'était trop gros, que Poutine avait les yeux plus gros que le ventre, qu'il ne serait pas capable de gérer avec un pays de 150 millions d'habitants, un pays aussi important que l'Ukraine, de l'occuper militairement, que ça serait une galère comparable à ce qu'avait été l'aventure russe en Afghanistan. Enfin, mutatis mutandis, bien sûr. En revanche, j'étais convaincu que l'armée ukrainienne, enfin, j'étais convaincu, s'effondrerait, que les Russes seraient à Kiev et que les difficultés viendraient après, un peu comme en Irak pour les Américains. La guerre était gagnée, en revanche, les ennuis commençaient. Ben, ça ne s'est pas passé de cette façon-là, et les Ukrainiens ont résisté. Et c'est intéressant parce qu'il s'est passé quelque chose de comparable à ce qui nous est arrivé à nous, Français, en septembre 1914. C'est-à-dire que quand la première armée allemande du général von Kluck, au lieu de marcher sur Paris, s'est avancée vers le sud, et que les ordres de l'état-major ont été de ne pas, parce qu'il a compris assez vite, von Kluck, de ne pas marcher sur Paris, je crois que s'il avait marché sur Paris, l'armée française n'aurait pas tenu le coup, taxi de la Marne ou pas. Mais von Moltke a dit de façon très claire qu'il ne fallait pas séparer la première armée allemande de la deuxième armée, et donc ça a été la marche à la mer. Mais on aurait pu perdre la guerre en quelques semaines. Or, on a tenu 4 ans. Et après, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez comparable. On a fait des offensives du temps du maréchal Joffre, qui étaient des catastrophes. On a perdu énormément de monde. Et on a surestimé, à ce moment-là, les capacités de l'offensive, puisque nous avions cette doctrine, grand maison, etc., de l'offensive à outrance. Et là, ça a été la seconde illusion en Ukraine, c'est qu'on a cru que ce serait, comme vous l'avez rappelé, l'offensive est beaucoup plus difficile, ça Clausewitz le dit, le décrit de façon extrêmement minutieuse, on a misé sur cette offensive. Et là, moi, j'ai été très émerveillé par la résistance ukrainienne, vraiment émerveillé par sa résistance morale, sa capacité opérationnelle, sa le fait que cet État dont on disait qu'il était totalement corrompu, inexistant, incapable de fonctionner, on peut traiter l'État ukrainien avec énormément de condescendance. La corruption est là, ça c'est évident. Mais on a vu que sur les fonctions vitales, eh bien, l'État ukrainien tenait le coup. Et à ce moment-là, il a résisté. En revanche, c'était sans doute une illusion de penser qu'avec les moyens dont disposaient les Ukrainiens, c'est-à-dire une ressource démographique relativement faible par rapport à celle des Russes, et ça c'est notre faute, l'incapacité où nous nous sommes trouvés, nous, Européens et Américains, de fournir les ressources en termes d'armement et de munitions nécessaires à la compensation de cette infériorité démographique, ça c'est pas bien, parce que en septembre-octobre 2022, les Ukrainiens avaient vraiment réussi leur offensive, leur offensive sur un aspect du front, et c'est là qu'ils préparaient la grande offensive de printemps, et nous ne leur avons pas du tout donné les moyens, ce qui prouve que nous étions moralement en situation de faiblesse. Nous estimions que nous avions une obligation de moyens à fournir. Ça, c'est comme l'administration. L'administration a toujours une obligation de moyens, alors que nous avions une obligation de résultat. Ce que nous découvrons.
Donc, ce que vous dites quand vous dites incapacité, c'est en réalité, c'est un choix aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas fourni nécessairement les.
C'est un mélange d'inadaptation. Le président a parlé d'économie de guerre, mais on ne s'est pas mis en économie de guerre. Les Français étaient tous très très largement favorables aux Ukrainiens et ils votaient allègrement pour deux partis politiques aux deux extrêmes qui étaient plutôt dans la main de Poutine. Donc ça prouve qu'il n'y avait pas une claire conscience de la réalité. Cette conscience, elle apparaît maintenant et le président de la République, quelles que soient les appréciations qu'on puisse porter sur l'opportunité de sa déclaration de lundi dernier, le président de la République, cette déclaration du président de la République a eu pour effet quand même de cristalliser, de révéler les forces. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est, je crois que, on passe maintenant dans la défaite, non, ça va pas, etc. Je crois la situation est très difficile pour les Ukrainiens et que nous devons passer à la vitesse supérieure. Mais je crois que les Ukrainiens ont marqué des points considérablement. Poutine, la Russie a échoué, et quand la Russie, si la Russie ne gagne pas, ça veut dire qu'elle perd. Et si l'Ukraine ne perd pas, ça veut dire qu'elle gagne. Et là, il s'est quand même, on voit bien les desseins de Vladimir Poutine, ils sont assez précis. Ça consistait à neutraliser, dans tous les sens du terme, l'Ukraine, à prendre le contrôle du régime politique, de manière à ne pas avoir une concurrence démocratique qui est insupportable pour une absolue kleptocratie comme le régime russe. Ça consiste à éviter que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Ça consistait à éviter que se creuse une relation, un fossé complet entre l'Ukraine et la Russie, et ça consistait donc à prendre vraiment le contrôle, notamment d'Odessa, et d'avoir un régime à sa main. Or, ça consistait à maintenir, à avoir une Europe qui serait en situation de dépendance, en espérant que les États-Unis continueraient de s'orienter, de mettre la priorité sur leur confrontation avec la Chine et à se désengager de l'Europe. Sur tous ces points, l'offensive Poutine est un échec complet. Il a donné au nationalisme ukrainien une dimension nouvelle. Il y a toujours eu une nation ukrainienne, mais là, elle a vraiment pris conscience d'elle-même et dans son altérité et dans son opposition à la Russie. Elle s'est accrochée à l'Europe. Elle est maintenant candidate à l'Union européenne. L'OTAN s'est fondamentalement réorganisée avec l'entrée de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN, au sein de l'organisation. Nos budgets militaires, et quand même c'est très très sensible, ont augmenté. Nous avons la loi de programmation qui a été réalisée, qui s'est achevée récemment. Pour la première fois, nous avons respecté ces objectifs. Les dépenses militaires françaises ont beaucoup augmenté, pas assez. Je reviendrai peut-être sur les aspects. La structure de notre structure militaire n'est pas très adaptée à l'aide à l'Ukraine. Mais, par exemple, les Suédois ont augmenté massivement leurs dépenses militaires. Les Danois ont levé leur opting out sur géopolitique et ont accepté les clauses géopolitiques, les clauses de politique extérieure de l'Union européenne. Les Finlandais, moi je suis allé voir, j'ai discuté avec le président de la République finlandaise notamment, les Finlandais nous ont dit, nous les Russes, on avait espéré qu'on pourrait s'arranger avec eux, mais on n'a pas confiance, il faut absolument qu'on soit solidaires, on sait très bien que ça risque de nous coûter la guerre, mais on a l'habitude. Donc il y a un échec compliqué. Alors c'est une situation qui est effectivement très enrageante pour Poutine et qui mise quand même sur trois choses, et c'est là, l'aspect militaire, là ça dépend vraiment de nous. C'est vrai que l'Ukraine est en situation très difficile, et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dire, moi j'ai été furieux du Conseil européen de décembre dernier, où on offrait 10 milliards à M. Orban pour qu'il aille simplement faire pipi au moment où on déciderait d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. On avait décidé du principe de l'adhésion, ouvrir les négociations, ça n'avait aucun sens, aucun concept n'avait été établi, aucun cadre, aucun processus. On dit, ah oui, ben ils viendront chez nous en 2030. C'était vraiment la démarche de celui qui ne fait pas l'effort aujourd'hui et qui se dit, mais vous allez voir, dans 6 ans, ça sera, vous verrez ce que vous verrez. Donc c'était vraiment très agaçant. Depuis lors, l'Europe s'est ressaisie, et elle s'est ressaisie à la fois, et la réunion de lundi dernier était quand même très précieuse. Moi, j'avais vu juste avant, parce que je suis c'est une vieille relation à moi, le Premier ministre portugais, on était ensemble au Parlement européen, M. Costa, il avait souhaité prendre un café avec moi, et alors je suis allé le voir juste avant la réunion, et il était gonflé à bloc, c'est très significatif d'ailleurs, un homme du Sud, etc., donc c'était pas évident, bon, mais il était, et je crois que la réunion elle-même, quand elle a essayé de mettre au point Emmanuel Macron, dans son style inimitable, appelle des coalitions capacitaires, il s'est passé quelque chose de très positif. Alors, j'en reviendrai tout à l'heure, je ne vais pas répondre maintenant, mais sur les rapports, ce qui s'est passé depuis, à la suite de la déclaration. Mais il y a quelque chose d'important, et ce qui montre que nous avons enfin pris conscience du fait que ce qu'il s'agissait de faire, c'est d'aider les Ukrainiens, hic et nonc, et pas dans je ne sais combien de temps, c'est précisément ce que vous avez rappelé, madame, c'est-à-dire le fait qu'on achetait des armes sur étagère. C'est très bien de dire qu'on doit avoir une industrie de l'armement, et que quand on aura cette industrie, ben on produira des armements. Enfin, on n'est pas dans le calendrier qui nous autorise. On est obligé de délivrer, comme disent les Anglais, de livrer des armes maintenant. Et donc, effectivement, alors, on voit bien, c'est des convives intéressantes parce que les Tchèques, je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, ils ont sans doute fabriqué bâti un système avec l'Union sud-africaine, avec l'Afrique du Sud qui ne veut pas apparaître mais qui veut bien gagner de l'argent en vendant des obus. Mais on a raison. Et là, est-ce qu'il faut s'endetter? Moi, Dieu sait que je suis favorable à une gestion beaucoup plus rigoureuse qu'on a depuis des années en France. Mais là, je dis, à la guerre, on ne compte pas la dépense. On a toujours fait ça. D'ailleurs, les Anglais, en 1815, étaient ruinés. Non, ils étaient vainqueurs. Il faut toujours avoir... Et là, on doit y aller. Donc, la première arme de Poutine, c'est il bénéficie d'un atout démographique considérable, il bénéficie de force. Alors c'est une guerre, c'est la guerre de 14 et 39-45 réunis. C'est l'artillerie de 14 et les chars de 39-45. Alors c'est pas une guerre pour nous, c'est ça que je voulais dire. Nous on a une force de dissuasion et une force de projection. Et on est très faible sur les armes traditionnelles de défense continentale. C'est pourquoi on a du mal à fournir...
Nous, Français.
Des matériaux. Nous, Français, oui. Nous, bien sûr. On a du mal à fournir, alors les Allemands, avec des statistiques un peu biaisées, mais il ne faut pas le dissimuler qu'ils en font beaucoup plus que nous. Mais les Allemands fournissent des chars Léopard, des choses comme ça, etc. Mais nous, on fournit des matériels quand même tout à fait intéressants, des matériels équivalents avec Taurus. Mais enfin, donc là, la deuxième arme de Poutine, c'est évidemment les élections américaines. Ah, c'est évident qu'il attend un désengagement américain en cas d'élection de M. Trump. Or, c'est une hypothèse qui prend chaque semaine un peu plus de crédibilité, même si elle n'est pas sûre. C'est quand même quelque chose de très précis. Alors, je ne pense pas que ça se traduira, malgré les rodomontades de l'intéressé, que ça se traduira par un désengagement immédiat de l'OTAN, ni même par un congé donné à l'article 5, qui est l'article de solidarité. Mais en revanche, ça sera, il videra son... Je crois que les Américains ont intérêt à rester dans l'OTAN. C'est une arme d'influence très importante. Mais ils auront intérêt à le vider de toute réalité. Tout ce qu'il dit, Trump, c'est si on perd les pays baltes, on s'en fiche, etc. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et le troisième élément, alors, on est dans une perte, mais je crois quand même qu'il faut poser les problèmes en termes de politique intérieure. Le troisième instrument, et c'est fondamental, c'est ce qui va se passer dans le beau pays de France. C'est-à-dire que nous avons à la fois sur les élections européennes, et les élections européennes n'étant, comme l'a dit d'ailleurs M. Bardella, que la répétition générale de l'élection présidentielle, là, il y a quelque chose de tout à fait central, c'est que si des forces favorables à la Russie, je crois qu'on ne peut pas douter que le Rassemblement national, d'une part, et que LFI, s'il arrive, on ne peut pas nier que ça se traduira par deux choses fondamentales. Une remise en cause des engagements principaux constitutifs de l'Union européenne. Ce ne sera pas une sortie brutale de l'Union européenne, mais ce sera une sorte de Frexit, de Brexit en pièces détachées, en somme. Parce que quand on va dans ma commission, je vois ce que disent mes collègues du Rassemblement national, ils mettent systématiquement en cause tous les aspects de la construction communautaire, la suprématie, la supériorité, pas communautaire, forcément supérieure. Le budget, notamment tout principe de transfert qui ne soit pas injuste. Le mécanisme de décision, refus de toute majorité, et la solidarité géopolitique. Donc ça veut dire que dans cette hypothèse, il y aurait une remise en cause, à mon avis, très profonde de ce qu'est l'engagement de la France depuis la guerre, c'est depuis entre 1950 au moins, et la déclaration Schuman. Une remise en cause très très substantielle, très profonde, qui se traduisant en plus, alors sur le plan démocratique, il y a quand même une assez grande fascination pour des régimes qui ne sont pas attachés à la séparation des pouvoirs, à l'état de droit. Donc tout ça compose un paysage qui serait évidemment un dynamitage des grands choix que nous avons faits depuis 1950, et en particulier de cette contribution à un ordre politique différent qu'a été l'apport de la France à la construction européenne, car qu'on le veuille ou non, L'Europe, c'est une idée initialement française. Ce n'est pas une idée qui installe le pouvoir de la France, mais c'est une idée qui repose sur des concepts que nous avons imaginés pour permettre aux Européens de vivre ensemble. Donc on aurait, à ce moment-là, nous aurions sans doute, à travers ça, un séisme comparable à ce qu'a été la chute de l'Empire soviétique, la chute du mur et la chute de l'Empire soviétique, et ce qu'a été, dans l'autre sens, la constitution du camp occidental au début des années, entre 47 et 53, disons. Donc on a ça. Et alors je pense que l'offensive Poutine s'inscrit dans ce cadre, et évidemment, il n'y a aucune raison, compte tenu des intentions qu'il affiche sur la reconstitution de l'Empire soviétique. Ça, c'est une question intéressante, d'ailleurs. Mais il n'y a aucun doute que son ambition est globale et qu'il estime qu'il aurait affaire à une Europe complètement affaiblie. Donc voilà les trois éléments qui me paraissent constitutifs de ce qui sera notre horizon à moyen terme, de ce qui est l'horizon de nos engagements politiques, de nos engagements diplomatiques, de nos engagements militaires sur les années qui viennent. Et c'est ça qui me paraît devoir. Alors, et ça commence effectivement, ça commence pour nous par le fait d'aller très vite, de mettre très vite beaucoup de moyens au service des forces armées ukrainiennes.
Vous avez dit tout à l'heure que si l'Ukraine ne perd pas, ça veut dire qu'elle gagne. Et là, vous venez de me semble-t-il, dire quelque chose de sensiblement différent, puisque vous dites la démographie russe, les élections possibles de Trump et le basculement de la France, la fin de l'Europe telle qu'on l'a construite depuis les années 50, si jamais tout ça se passe, l'Ukraine, elle sera perdue.
Ça commencera par l'Ukraine. Je veux dire que les trois éléments, tout ça va ensemble. Et effectivement,
il vaudra mieux que l'Ukraine gagne.
Elle perd. Oui. Si l'Ukraine ne perd pas, elle gagne. Mais si l'Ukraine perd, elle perd.
Oui.
Alors, je ne sais pas dans quel ordre tout ça se produira, mais je crois qu'il y a une très grande cohérence. Alors, c'est au service quand même d'un projet qui est assez incroyable. J'ai été très frappé après la déclaration du président de la République, dont on peut dire qu'elle a été formulée en des termes et de façon assez inopportune et en des termes à la fois assez confus et maladroits.
Vous parlez de celle de l'envoi de troupes.
Absolument. Mais ce qui a été frappant, c'est qu'elle a agi, et de ce point de vue-là, c'est d'ailleurs pas totalement négatif, loin de là, elle a agi comme un révélateur, et j'ai été frappé à cette occasion de la puissance du parti russe en France. Je me souviens, et il y a ici quelqu'un qui s'en souvient comme moi, puisque c'était chez lui que ça s'était passé, je me souviens d'un dîner avec Alain Juppé, quand Juppé était candidat à la présidence de la République, et il nous avait dit, avec un certain effroi, il nous avait dit « Je suis étonné de voir dans mon parti à quel point la Russie, par anti-américanisme d'ailleurs pour l'essentiel, la Russie fait recette. » Et il y a vraiment un philo-russisme qui s'appuie d'ailleurs sur une lecture totalement biaisée de l'action du général de Gaulle. Moi, je rappelle que on peut rappeler à M. Scholz que quand les Russes ont menacé le régime quadripartite de Berlin, les Anglais et les Américains étaient très flageolants, et que c'est le général de Gaulle qui avait pourtant un 2 de trèfle dans les mains en termes militaires, parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas de force nucléaire réelle, etc. à ce moment-là, pendant la crise de Berlin, a dit « Nous n'accepterons pas », et Vinogradov lui a dit « Alors vous allez faire la guerre ». Ce n'est pas à Cuba que de Gaulle a...
Là, vous parlez de 58.
Non, 61.
61.
De Gaulle a eu cette phrase, « Eh bien, monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. » Bon, alors, on n'a pas hésité, à ce moment-là, à prendre des risques importants, et d'ailleurs, c'est ça qui a scellé l'union entre Adenauer et de Gaulle. Et je trouve que M. Scholz qui a envoyé, alors lui, un signe vraiment dramatiquement négatif, parce que nous, nous avons dit, enfin le président Macron a dit, on n'exclut pas. Alors il a eu le tort de dire, de pas dire à terme, il aurait dû dire, précise sur le fait que ce n'était pas maintenant. Bon, on n'exclut pas une mobilisation. D'ailleurs, les États-Unis, vous avez vu que le secrétaire à la Défense a fait une déclaration tout à fait intéressante en disant que si l'Ukraine s'effondrait, il faudrait que l'OTAN entre en guerre. Donc, y a là quelque chose de très fort. On n'est pas totalement isolé. Les États-Unis, bidenien, bien sûr, ce n'est pas rien. Les Anglais disent à peu près la même chose. Et d'ailleurs, envoient aux Ukrainiens les mêmes sortes de matériel que nous et qui sont les mêmes sortes de matériel que les Taurus, que les Allemands n'envoient pas. Donc, on a...
Donc, des missiles.
Comment ?
Donc, des missiles capables de frapper à 500 kilomètres.
Donc, on fait ça, on doit le faire. Mais malgré tout, ce qui me frappe, c'est quand même l'étendue de la partie russe. Ça a été quelque chose de très révélateur, ce qui s'est passé la semaine dernière, avec des déclarations, notamment de la présidente du Rassemblement national, qui sont quand même étonnantes, en disant on ne va pas exposer des soldats, des jeunes Français, des soldats, pour défendre l'Ukraine. Alors, on a fait tuer, moi j'ai un neveu qui est mort au Mali, un petit neveu qui est mort au Mali, on a fait tuer des Français pour le Mali, on a fait tuer des Français pour l'Afghanistan, sans beaucoup de succès dans tous ces cas. De toute manière, quand on a des intérêts à défendre, des alliés à protéger, on a une armée, l'armée est faite pour assumer ce type de risque. Je trouve ça extraordinaire que quand on imagine la idéologie nationaliste supposée du RN, qu'on ait cette timidité. Puis alors, quand je ne parle pas de l'utilisation de la loi qui est complètement aberrante. Mais en tout cas, c'est quand même très dur. Et maintenant, il faut effectivement, c'est le mérite de la formule du président de la République, que de nous dire, maintenant les petits gars, il va falloir y aller.
Oui. Ben là, on poursuit les gens. Vous allez pouvoir poser des questions. Oui, en fait, en l'occurrence, on est là pour écouter les. Mais vous pourrez poser les questions. Donc on va donner la parole à Théophile. Vas-y.
Oui, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais d'abord j'aimerais revenir un peu sur l'Ukraine après 2 années de guerre. Quelle perspective est-ce que ça nous donne sur le conflit? Au lendemain du 24 février 2022, moi j'étais très surpris de constater ce qui me semble être une rupture générationnelle dans la perception à chaud de ce qui était en train de se passer. Moi, je suis né en 1992, donc après la chute de l'Empire soviétique, comme vous disiez. Mes cours d'histoire au lycée me présentaient le conflit de la guerre froide comme l'opposition entre deux blocs qui, en fait, avec le recul des années, m'étaient présentés comme des blocs équivalents, voilà, un conflit conventionnel entre des intérêts qui s'affrontaient, des peurs, des mécompréhensions. Et donc, la Russie, pour moi, et sans doute pour d'autres personnes de ma génération, est un pays comme un autre. Et ma lecture, comme ça, au ras des événements, se confrontait à la génération, alors pas celle de mes parents, mais plutôt celle de mes grands-parents, mes grands-parents sont nés dans les années 40, ils ont grandi avec Staline, ils ont connu l'époque de Khrushchev, et ils me disent, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas ce que peut faire la Russie, ce dont la Russie peut être capable. Alors, très bien, effectivement, je n'ai pas connu cette époque-là, et peut-être que je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir ce que signifie une guerre, même indirecte, avec la Russie, avec les Russes. Je reviens encore à mes cours d'histoire, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a moins de 15 ans, mais ça me paraît très 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 loin. On étudiait les causes et les circonstances de la Première Guerre mondiale, vous en avez parlé plusieurs fois, Monsieur Bourlange, on nous présentait toute la, la préhistoire de ce conflit avec les alliances, les réseaux d'alliances, la manière dont l'Allemagne de Guillaume II s'était mise en place avec Bismarck, et que l'Europe se trouvait dans une impasse qui ne pouvait que déboucher sur la guerre. Et pourtant, malgré ça, dans mes cours d'histoire, on nous présentait des documents d'époque. Voilà, la France en 1914, en 1915, en 1916. L'Allemagne, c'était l'ennemi, c'était des fous furieux. Il fallait absolument arrêter les Allemands qui voulaient à tout prix étendre leur emprise sur le territoire européen, etc., etc. Et donc, en seconde, j'apprenais que, en temps de guerre, il faut bien sûr mobiliser les opinions. Il faut gagner la guerre. Mais, donc ça, je comprends. Mais est-ce que on est bloqué? Est-ce qu'on n'est pas bloqué dans cette logique de, il faut trêve des nuances, trêve d'une lecture géopolitique. Il faut gagner la guerre, donc mobiliser l'opinion. Est-ce que on a aujourd'hui les ressources pour penser ce conflit autrement que comme qu'à partir du camp de ceux qui doivent gagner la guerre. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a le recul pour prendre de la distance en vue de la paix, voilà, de trouver une issue qui ne soit pas l'issue par les armes. Ou comme vous dites, Monsieur Bourlange, vous disiez, soit l'Ukraine ne perd pas et elle gagne, soit la Russie ne gagne pas et elle perd. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'envisager ce conflit que comme étant nous étant forcément du côté de ceux qui doivent gagner la guerre? Parce que les Russes se disent la même chose. Ils doivent gagner la guerre.
Je n'ose pas vous répondre, je ne veux pas abuser la parole. Monsieur peut-être a la réponse.
Alors, vous êtes dans un conflit qui est déjà engagé. J'entends ce que vous me dites, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas trouver une réponse où finalement on ne serait pas engagé dans le conflit et nous serions chez nous tranquillement installés? Ce serait effectivement beaucoup plus simple. Au demeurant, parfois quand vous ne vous impliquez pas, vous ne faites que repousser l'échéance et vous allez la repousser d'une manière qui sera particulièrement violente. Si on revient à la Russie, je vous renverrai pas si loin, en 2007, à un discours qui est donné par Monsieur Poutine, où vous avez beaucoup d'Occidentaux, Angela Merkel à l'époque au premier rang. Je suis sûre que, monsieur le député, vous vous en souvenez.
À Munich.
À Munich, tout à fait, où le président Poutine a, on espère un petit peu, beaucoup de choses, a un discours qui est particulièrement violent envers les Occidentaux. Vous avez ensuite eu différents conflits, l'Estonie, la Géorgie, avec des amputations territoriales de manière régulière, la Crimée, l'annexion de la Crimée. Ce que vous avez, c'est que la Russie, le régime actuel à la tête de la Russie, et là encore, attention, il ne faut pas forcément faire ne serait-ce qu'une approche culturelle, un chouïa superficiel, mais vous arrivez à avoir un régime qui finalement teste de manière régulière la capacité de réaction de ce qu'elle estime être des adversaires, y compris des adversaires culturels, hein, ça a été dit à plusieurs reprises, et qui fait une réévaluation non seulement de la force, mais de la capacité de réaction. Et en fonction, si vous avez une révélation qui est à la baisse, eh bien le coup d'après, vous repoussez cet avantage et vous le repoussez toujours un petit peu plus loin. Donc, à un moment, votre enjeu, il est différent. Les Ukrainiens sont dans une position où ils sont à résister contre la poussée russe. Et je vous rejoins sur le fait de leur posture. C'est que s'ils ne résistent pas, ils disparaissent en tant que nation, en tant que structure culturelle. Et là, vous êtes dans un enjeu différent. Derrière les Ukrainiens, eh bien, vous risquez d'avoir des poussées. Les Pays-Baltes, alors les Finlandais, ça a été évoqué, ont une connaissance intime de la Russie, pour dire cela, avec une intimité qui a pu se gérer au coucou pour les connaisseurs.
Puisque la Finlande a été sous domination russe jusqu'en...
Oui, la guerre d'été, entre autres. Enfin bon, ils ont une frontière directe.
Elle a quand même sauvé ça. Par sa vaillance, elle a quand même sauvé une certaine autonomie. Oui.
Tout à fait, même si on a parlé de finlandisation ensuite. Mais vous allez avoir cet enjeu-là. Donc parfois, on ne peut pas simplement être spectateur. face à une puissance qui va être belliqueuse. Et le temps de la négociation, bien c'est ce que l'on voit, hein, même si la Russie a fait mine de tendre des ouvertures de négociation, ça n'est pas une négociation. Ce qui était en jeu, c'était simplement de discuter les modalités de la capitulation ukrainienne. Or, à l'heure actuelle, c'est aussi un choix de société. Dans quel modèle de société avez-vous envie de vivre ? Je préfère le modèle européen, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la population ukrainienne, et notamment les jeunes, pendant le Maïdan, aspiraient à avoir un modèle sociétal qui n'était pas le modèle russe, mais qui était le modèle occidental. Moi, je ne suis pas forcément sûr que même certains qui ont une vision de la Russie assez fantasmée, assez mystifiée, avec les grands auteurs qu'on croise quand même pas tous les jours au coin de la rue à Moscou, ni même à Saint-Pétersbourg, et encore moins quand vous allez dans l'extrême-orient russe, et une maîtrise réelle de cet enjeu-là. Je n'en suis pas persuadée. Il y a un moment où vous êtes dans l'obligation de faire des choix sociétals. Et là où, pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur le député, il y a aussi un autre enjeu. La Russie, elle est dans de la dissuasion. On l'a vu, hein, les mots ont un impact. Hein. Bon, je ne ferai pas un parallèle avec un journal bien connu, mais bref. Donc vous avez cette possibilité d'aller faire de la dissuasion dans le discours. On parlera même de heavy metal diplomatie. Alors non pas pour vous évoquer ici mes goûts musicaux potentiellement douteux, mais c'est quand vous allez utiliser dans le discours diplomatique la force militaire comme étant un argument de discussion. Et quand vous avez un État qui, par exemple, vous explique qu'ils vont mettre sur l'exclave, et pas l'enclave, là aussi les mots ont un sens, de Kaliningrad des missiles qui ont une capacité d'emport nucléaire et qu'ils vous expliquent que là, vous êtes au milieu de l'Europe, ils le font à dessein, ils le font en 2016. Et là-dessus, vous êtes sur cette capacité de dissuasion. Attention à ce que vous risquez si vous avancez. Vous avez ensuite la division. Et la division, elle va pouvoir jouer de différentes manières, en jouant sur différentes opérations d'influence, en pénétrant différentes strates de la société, en agitant des divisions, alors que l'on est sur des minorités, que l'on aille sur certains partis, etc., par exemple. Vous allez aussi arriver à camoufler des choses et à mystifier certains éléments. Et vous allez avoir un véritable enjeu d'historiographie et non plus d'histoire. La Russie, depuis maintenant 2 décennies, a construit une bulle informationnelle. Pour le faire de manière extrêmement simplifiée, pendant la première décennie, sous la présidence Poutine, vous avez eu une forme de contrat social qui était d'essayer d'échanger avec les Russes au sens large. Là encore, les Russes, c'est pas aussi homogène que ça, hein, sur cette population. On pourrait quasiment parler, comme Anna-Colin Lebedev, de 3 Russies, si ce n'est plus. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. Mais de dire, voilà, vous avez eu la chute de l'URSS avec l'effondrement économique que l'on sait. On avait un échange qui était entre une amélioration moyenne de la vie de tout à chacun. Il y a eu effectivement une forme d'amélioration contre une forme d'apathie politique, c'est-à-dire ne vous engagez pas sur le système politique. Et puis on a eu un pivot au bout d'une dizaine d'années, alors je vous simplifie les choses, le temps nous étant compté, où on a eu quelque chose qui était du domaine de la forteresse assiégée, où finalement tout ce qui était autour de vous n'en voulait qu'à l'unité, votre identité nationale, avec ce grand retour de l'âme slave, avec ce grand retour de l'orthodoxie, puisque le communisme étant effondré, il a bien fallu trouver d'autres éléments pour arriver à cette unité-là. Et vous avez une population qui vit dans ces formes de bulles informationnelles depuis maintenant 20 ans. Quand on voit de notre côté des opérations d'influence qui visent à mettre en péril les processus démocratiques, eh bien là, vous avez une capacité de jouer sur cette division que l'on a évoquée, à laquelle viendra se rajouter une fatigue, parce qu'on se lasse d'un conflit qui dure, parce qu'on se dit que finalement c'est bien loin et que l'on pourrait être beaucoup plus confortablement installé chez nous, sauf que ça serait uniquement probablement repousser une échéance.
Merci, on va passer la parole à la salle.
Oui, bonsoir. Parmi les défis qui nous sont présentés, il en est un qui, à mon avis, a beaucoup d'importance dans notre contexte et dans notre affaire, c'est celui d'une Europe de la défense. Parce qu'on voit l'OTAN qui prend un peu ses distances, enfin l'OTAN et les Américains de l'OTAN qui prendraient leurs distances vis-à-vis de l'Europe, mais il faudrait qu'on lui substitue quelque chose si les Américains prennent cette distance-là. Pensez-vous que l'Europe est prête à cette construction d'une Europe de la défense, alors qu'au sein même de cette Europe, on a deux puissances nucléaires. Comment vous voyez cette chose-là?
Qui veut répondre, Jean-Luc Borloge?
Oui, c'est la question la plus dure et celle qui appelle pas mal de scepticisme. L'Europe n'a pas été faite pour s'organiser sur un mode défensif. Même, vous savez, je suis un militant européen assez résolu, je suis partisan d'une intégration très forte, mais par exemple, rétrospectivement, je ne suis pas séduit par la CED telle qu'elle avait été conçue entre 1951 et 1954, car en réalité, ce n'était pas une armée européenne, c'était un ensemble d'unités militaires qui étaient placées sous contrôle américain. C'était donc quelque chose qui ne collait pas, et je pense que les choix qui ont été faits, notamment par Mendès France et par l'Assemblée nationale française de l'époque et par les alliés, de construire l'OTAN était beaucoup plus réaliste. L'Europe est construite pour faire la paix, est construite pour développer des échanges, et tout le système a consisté à insérer une communauté européenne de réconciliation politique et d'échanges économiques à l'intérieur d'un ensemble qui était constitué par une communauté atlantique qui, elle, assumait la fonction, la violence légitime, si vous voulez, les exigences de défense, et puis en bas, l'État qui, conformément à sa vocation traditionnelle, assurait la défense. Donc on avait l'Alliance Atlantique, pour nous, la force de dissuasion à partir de De Gaulle, mais même avant d'ailleurs, parce que la force de dissuasion a été construite dès le début de la 4e République, par Félix Gaillard quand il dirigeait le CEA, etc. Enfin, ça a été une construction, une constitution très progressive. Et puis, on avait cette Europe qui était comme ça. Et on rencontre donc trois problèmes. Le premier, c'est que on a une structure qui existe, qui est l'OTAN, qui est une structure où on fait de la planification multilatérale, donc où les Européens se retrouvent. Et maintenant, ils se retrouvent de plus en plus, puisque les Finlandais et les Suédois ont rejoint cet OTAN, pas du tout dans un esprit anti-européen, mais au contraire, dans la volonté de coller à des exigences de coopération multilatérale, comme les Baltes, comme les Polonais, comme même, malgré Orban, les Hongrois, etc. Donc, on a cette... Mais c'est une entité qui ne correspond pas à l'Union européenne, mais qui a un avantage aussi, c'est qu'elle comprend le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne. C'est un casse-tête, ce système, hein. Il faut bien voir en termes institutionnels. Alors, on a donc ce problème de périmètre. On a le second problème, c'est, comme vous l'avez dit, les États-Unis. Et alors, les États-Unis ne sortiront pas de l'OTAN. Ils vont rester et ils ont une position dominante. Donc, on va être en situation très difficile. Pour l'instant, ils nous demandent, et ils ont raison, Trump a raison sur ce point, de dire vous êtes suffisamment riche pour contribuer davantage à votre défense. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est très important et nous le faisons progressivement, mais nous le faisons. Et puis, le dernier problème, c'est le problème institutionnel. Il est évident que l'Europe intégrée, la majorité qualifiée, etc., la Commission, tout ça, c'est pas très très commode. On fait pas la guerre à la majorité qualifiée, hein. Quand on est dans la, on fait pas la guerre. Donc, de toute manière, on est là dans des domaines où la souveraineté des États joue un rôle important. Alors, il faut mettre tout ça ensemble. Alors, ça implique plusieurs choses. Ça implique sans doute que sur le plan de l'Union européenne, Monsieur Breton s'y attache. Notamment, on développe tout l'aspect politique industrielle de défense, mise en œuvre des moyens. Nous devons avoir une industrie de la défense, même si nous avons des raisons d'acheter immédiatement sur étagère des matériels à livrer à l'Ukraine. Donc il y a tout cet aspect qui est mi-civil, mi-militaire, qui peut être exercé, peut être organisée par l'Union européenne, mais dans des conditions très difficiles. Le niveau de coopération militaire entre les Allemands et nous est pas bon du tout, y compris dans les satellites, enfin sur l'avion qui remplacera la Rafale, sur le char, enfin tout ça ne fonctionne pas de façon très optimale, mais les relations franco-allemandes ne sont pas bonnes en ce moment. C'est un grand problème que nous avons. Enfin, là, il y a un domaine. Deuxièmement, il faut donc mettre de l'argent. Ça, d'abord, il faut mettre de l'argent. Et on doit faire de la coopération bilatérale, c'est vrai, notamment pour avoir les Anglais dans l'affaire. Et ça, c'est assez délicat à concevoir. Ce qu'a fait la réunion de lundi dernier était assez intéressante de ce point de vue-là. C'était l'idée que chaque nation, chaque État faisait un effort particulier, mais qu'on se réunissait ensemble pour essayer de coordonner, de rationaliser, de faire des économies d'échelle, etc. Mais le système institutionnel est un peu en rade. Alors, à ça s'ajoute le fait que les pays les plus allants ne sont pas tous dans l'Union européenne. Les pays les plus allants sur le plan militaire, c'est le Royaume-Uni, la France et la Pologne. Bon, et pas l'Allemagne. Or, l'Union européenne, c'est d'abord, même si c'est pas uniquement, c'est d'abord le couple franco-allemand. Donc, on est dans une situation très très délicate, et il me semble qu'il faut gérer ça empiriquement, c'est-à-dire qu'il faut empiriquement, ça veut dire mettre de l'argent. Il faut que nous augmentions massivement toutes nos dépenses. Deuxièmement, toutes nos dépenses militaires. Deuxièmement, au plan européen, il faut gérer ça industriellement. Et puis, sur le plan de la planification stratégique, c'est là où nous avons un problème. On a beaucoup hésité. Et maintenant, nous, Français, alors Macron a changé, passé à 180 degrés de l'OTAN en mort cérébrale. Il faut absolument, tout doit passer par l'OTAN. C'est assez surprenant. Moi, je dis toujours, le président de la République a fait une légère erreur de diagnostic médical. L'OTAN n'était pas en mort cérébrale, il était en coma profond. Or, grâce au ciel, qui est bien nécessaire en l'occurrence, le coma profond, on en sort. Mais effectivement, on a ce problème. C'est quand même, l'OTAN est le bon outil de coopération, d'organisation, mais il y a les États-Unis, puis il y a la Turquie. Donc c'est vraiment un peu la bouteille à l'encre. Cela dit, on peut vraiment faire beaucoup de choses, mais on ne va pas construire la défense européenne comme ça, entre guillemets, ça va être plus compliqué. On va organiser une capacité européenne de défense améliorée, si tant est qu'on est capable de se mobiliser.
Merci beaucoup. Autre question.
Pardon, j'étais trop long.
Pour Monsieur Borlange, vous allez avoir un débat le 12 mars, donc au Parlement. Comment préparez-vous ce débat pour qu'il soit pédagogique pour les citoyens? Chaque fois qu'il y a ce genre de débat, on a les leaders de chaque parti qui défilent. Là, il y aura un vote, peut-être qu'ils seront un peu meilleurs. Mais si, est-ce que votre commission de défense et la commission des affaires étrangères peuvent travailler ensemble pour préparer les désaccords et bien les clarifier pour les citoyens?
Et vous posez une question fondamentale qui est de savoir comment l'Assemblée travaille. L'Assemblée nationale travaille actuellement et c'est une Assemblée qui est assez profondément divisée, notamment divisée sur cette question, avec deux partis importants, le RN et le LFI, et une partie qui sont des partis sur des lignes très différentes des autres, avec en plus une petite contamination du RN sur LR et une petite contamination de LFI sur le reste, sur une partie de la gauche. Donc c'est comme ça. Et en termes de débat, je ne suis pas fier, effectivement, de la façon dont l'Assemblée nationale débat, non pas que pour l'essentiel, c'est-à-dire pour à peu près 450 ou 500 députés, il n'y ait pas une conscience très aiguë de ce que doit être un débat politique, mais il suffit de quelques dizaines de trublions pour rendre impossible un fonctionnement normal. Et ça, c'est pas le RN qui est en cause. Le RN est d'une sagesse parfois un peu troublante, mais d'une sagesse d'image. En revanche, sur à l'extrême gauche, effectivement, on a une très très grande difficulté à fonctionner. C'est vrai. Alors sur le débat lui-même, ça n'est pas l'affaire des commissions, c'est l'affaire des groupes politiques. Nous sommes dans une démocratie pluraliste et le débat sera organisé de telle manière qu'il y aura une déclaration du Premier ministre, Monsieur Attal, qui se fera sur qui sera une déclaration sur l'accord bilatéral passé entre l'Ukraine et la France. C'est pas exactement un accord international et nous ne voterons pas sur l'accord lui-même. Nous voterons sur la déclaration, mais nous voterons. Ce sera un vote important. Ce sera un vote pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre notre engagement au service de l'Ukraine. Et donc Monsieur Attal fera ses déclarations et ensuite les groupes parleront. Par exemple, mon groupe, le Modem, aura 15 minutes. Mais le président de la Commission des Affaires étrangères n'aura que 5 minutes. Alors, je suis les deux. Donc, là, on verra comment ça s'organise. Mais, vous voyez, ce sont les groupes. Et effectivement, les groupes, bah, c'est le pluralisme démocratique. Les groupes n'ont pas forcément la même approche. Et ça va être, vous avez raison, ça va être un moment assez profondément de vérité, parce que la représentation nationale va-t-elle donner une impression épouvantable de désunion, de mésentente et d'absence de majorité, avec le risque que même il n'y ait pas de majorité pour la résolution, puisque nous n'avons qu'une majorité relative, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une sorte de ferveur assez large, avec une large majorité. Je cite toujours en exemple, un exemple que personne ne se rappelle, mais la Chambre qui a été élue en 1871, qui était profondément séparée sur le plan politique, puisqu'elle comprenait des républicains radicaux, et à l'autre bout, des monarchistes orléanistes ou légitimistes, mais sur les grandes questions nationales, sur la question des rapports avec Bismarck, sur la question de la libération du territoire, cette Chambre a été d'un parfait patriotisme et elle a un bilan qui est tout à fait remarquable. Je vous renvoie pour vous en convaincre au livre de Daniel Halévy sur la fin des notables. Daniel Halévy est entre autres le grand-père de Pierre Jox, mais il a écrit ce livre admirable et là on voit ce que c'est qu'une Chambre divisée politiquement mais capable de se réunir sur des valeurs patriotiques.
Merci. Autre question.
Oui, bonsoir. On a parlé de victoire et de défaite. Alors évidemment, du côté de la Russie, il y a une victoire dans le sens qu'il y a des gains territoriaux, le Donbass et la Crimée. Mais il ne faut pas oublier non plus, vous n'avez pas du tout abordé la question, sur le plan religieux, sachant que l'orthodoxie est quand même le fondement de l'identité nationale russe, une partie de l'Église orthodoxe ukrainienne a fait défection, a quitté le patriarcat de Moscou et s'est rallié soit à Constantinople, soit à l'église autocéphale ukrainienne. Et pas seulement en Ukraine, dans les pays baltes et dans certains pays européens, les orthodoxes qui étaient rattachés au patriarcat de Moscou ont fait sécession. Alors, est-ce que ça, c'est pas une défaite de la Russie poutinienne?
Si, tout à fait. Je voudrais juste raconter, je vais pas vous répondre, je vais vous laisser répondre, mais je voudrais vous raconter une blague. C'est une blague évidemment. C'est Poutine qui parle au patriarche et il lui dit mais es-tu sûr que Dieu existe? Et l'autre lui répond ah ben en tout cas j'espère que non. Évidemment, il a beaucoup à se faire pardonner.
Oui, pour revenir sur ce point-là, en fait, l'Église orthodoxe a même été un outil extrêmement important qui a probablement été détourné de ce que les croyants espéraient qu'elle serait en Russie. Ça a été beaucoup utilisé pour pouvoir véhiculer un discours politique qui est quand même assez éloigné de la liturgie, bien que je ne sois pas une spécialiste, mais il y en a d'autres en ces murs. Donc il y a le fait que vous ayez cette séparation au niveau du patriarcat en Ukraine a été quelque chose d'extrêmement fort. Et il y a même eu un détournement qui est allé jusqu'à, peut-être que certains d'entre vous se rappellent des premiers moments de la guerre, où certaines images montraient des conflits au sein même de la capitale ukrainienne de Kiev. Or, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés en Ukraine, et particulièrement dans la capitale, mais il y a un complexe qui s'appelle les Lavres, qui est un monastère dans lequel vous avez énormément de souterrains avec encore des ermites, etc. Et c'est un véritable dédale. Or, il se trouve que peu avant l'invasion, donc les Lavres répondent à l'Église orthodoxe russe, hein, même après le schisme, ce qui a été d'ailleurs un des points assez importants, puisque les dons qui étaient faits, retournaient sur la partie russe. Donc vous aviez aussi tout cet enjeu-là. Hein, alors je suis désolée de mêler ici une question bassement prosaïque et une question de foi, mais voilà. Il y a eu l'utilisation par certains batishki orthodoxes russes pour aller notamment récupérer des armes, stocker des armes, récupérer ce que l'on appelle des agents dormants et pour les réarmer au début du conflit. Ce qui est quand même pas forcément censé être dans l'approche liturgique, enfin ce me semble, sous votre contrôle. Donc oui, il y a véritablement un enjeu qui a été extrêmement fort sur l'influence que vous pouviez avoir sur les perceptions, sur même l'usage détourné qui pouvait en être fait. Et ça montrait aussi au niveau de l'Ukraine qu'il y avait une véritable identité propre, une volonté propre, et que l'on refusait finalement d'avoir un détournement de la foi à ce niveau-là. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste en théologie ou en liturgie, je ne peux vous en donner que l'approche qui a pu en être faite à des fins géopolitiques. J'en suis navré, mais que voulez-vous, c'est ici que mes compétences s'arrêtent.
Merci. Autre question.
Un, deux. Donc j'avais une question pour Monsieur Bourlange au sujet de Clausewitz, pour revenir sur Clausewitz, sur la guerre en Ukraine. Vous parliez de supprimer l'Ukraine complètement. Est-ce que pour vous c'est une guerre totale, absolue, pardon, ou une guerre réelle? Merci.
C'est la question, la question théorique sur Clausewitz. La guerre absolue, c'est pas la guerre totale. Ce que Clausewitz oppose, c'est la guerre absolue à la guerre réelle. La guerre absolue, c'est-à-dire que Clausewitz montre que par le jeu de ce qu'il appelle les actions réciproques, c'est-à-dire le fait que c'est l'adversaire qui vous dicte le niveau de violence où vous devez, qui vous oblige à réagir, et vous réagissez donc en ajoutant la violence, un degré supplémentaire à la violence que vous subissez, et réciproquement, et donc vous arrivez à une guerre absolue. C'est un concept, la guerre absolue, c'est pas une réalité. Et la guerre réelle, c'est la guerre absolue qui est tempérée à un moment par l'intérêt politique. C'est-à-dire que les protagonistes disent, je vais pas, c'est un peu comme au poker, là encore, je vais pas consommer toutes mes ressources, alors que le but de la guerre me donnerait le quart de la moitié de ce que j'aurais consommé. Donc la politique s'arrête à un moment donné, mais il faut qu'il y ait un intérêt politique et un objectif politique défini. Pour faire une allusion à un autre conflit extrêmement grave, c'est exactement ce que nous vivons actuellement. C'est pour ça que je suis personnellement très critique de la politique du Premier ministre israélien. C'est exactement ça. À partir du moment où il se lance dans un conflit militaire, avec les moyens qui sont ceux de son armée, qui sont très puissants, je ne discute pas de la légitimité de la réaction par rapport à la suite des atrocités commises par le Hamas, c'est pas la question que je pose. Mais à partir du moment où il engage cela sans avoir un objectif politique clairement défini et atteignable, on ne voit pas où peut conduire cette violence. C'est tout à fait, c'est ça la question. S'agissant de l'Ukraine, les objectifs de Poutine sont assez clairs. Ils sont maximaux. C'est pas du tout. Alors, Poutine, c'est pas, quand on dit il va pas discuter. C'est pas 20% du territoire ukrainien complètement dévasté, privé de sa population, qui répond en quoi que ce soit à sa volonté. Sa volonté, c'est d'éviter de constituer une nation ukrainienne démocratique liée à l'OTAN et liée à l'Europe occidentale, et ça implique qu'ils prennent donc des parts importantes du territoire, qu'ils contrôlent directement ou indirectement. Par exemple, je crois qu'il est vraiment très fixé, d'après ses déclarations constantes, très fixé sur la conquête d'Odessa, pourtant très loin, hein, de... Et deuxièmement, il veut contrôler le régime politique à Kiev. C'est ça son problème, et il veut asseoir, donner à l'Ukraine un statut de neutralité, dans la, combiné avec le fait que la sécurité serait assurée par la Russie, un peu comme l'Arménie, où la sécurité était supposée être assurée par la Russie. Mais en Arménie, c'était pas, au départ, en tout cas, c'est toujours pas un véritable conflit entre les Russes et les Arméniens. Mais là, c'est ça son idée. C'est une satellisation. Les Russes ont l'habitude de ça. Ils l'ont fait dans l'Europe orientale pendant toute la période de la guerre froide. Et c'est un objectif extrêmement précis et réaliste. Ce qui, évidemment, veut dire que quand on voit M. Mélenchon fait un plan de paix, etc., ça n'a... Il faut se réunir, il faut voir si on peut être d'accord, etc. Tout ça n'a absolument aucun sens, parce que la Russie poursuit un objectif extrêmement précis. Et ce n'est pas une guerre totale, ce n'est pas une guerre absolue, c'est une guerre réelle, et ils mettent des moyens. Et alors, comme c'est une dictature, ils ont une variable d'ajustement très importante, qui est la souffrance du peuple russe, qu'on peut mobiliser, qu'on peut pressurer économiquement, qu'on peut mobiliser militairement, il y a des tas de gens qu'on peut envoyer un peu partout, etc. Et donc, ils jouent à fond de cette carte en se disant, comme tout bon dictateur, j'ai le temps pour moi, j'ai l'unité de commandement pour moi, et j'ai en face de moi des gens velléitaires, divisés. Alors, c'est ça la réponse à votre question tout à l'heure. C'est que le problème, la différence, c'est que nous vivons depuis 1945 en paix. Alors, on a eu la guerre coloniale, on a eu l'Algérie, mais depuis la fin de la guerre d'Algérie, depuis 1962, nous n'avons connu que la paix. Et nous sommes donc devenus des animaux domestiques. Nous ne sommes plus des animaux de jungle. C'est ce que disait un dirigeant européen en disant nous sommes des herbivores au royaume des carnivores. Et c'est là où les jeunes ont beaucoup de mal à comprendre que la loi de la vie collective, c'est la lutte. C'est la lutte depuis toujours. On n'a jamais connu une période de paix comme celle que nous avons connue. Je me rappelle Mitterrand, j'étais au Parlement européen quand il a fait son dernier discours, le nationalisme c'est la guerre. Il avait commencé à faire rigoler tout le monde parce qu'il avait commencé en disant oui, la France a été en guerre avec tous les pays d'Europe, à l'exception du Danemark. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et il avait raison. Et ça, c'était ça. Même chose pour le travail d'ailleurs. Nous avons, nos anciens ont connu la misère. Bah, bien sûr, il y a toujours des pauvres, mais la misère collective, la misère générale. Et il était inscrit dans l'esprit de tout le monde que le travail était la modalité inévitable de participation à la société. Le travail, c'est de faire des trucs, et la société, en échange, vous donne un salaire et vous donne des prestations sociales. Or, maintenant, nous avons une tendance très intéressante à dire on travaille ou on fait autre chose. C'est une modalité de vie parmi d'autres. Pas forcément, ça ne conduit pas forcément à la paresse, mais c'est donc là, ce sont des changements de rapport à la réalité qui sont très, très profonds entre votre génération et celle qui suit et la mienne. Moi, je suis un boomer à l'état pur. Je suis né en 46. Je suis vraiment le boomer intégral. Hein. Mais j'ai donc vécu. J'ai été élevé dans les années. Quand on est élevé dans les années 50, on est élevé dans le souvenir des années 30. C'est évident que ma mémoire collective, c'est la guerre. C'est la défaite, c'est De Gaulle, c'est Churchill, c'est l'échec de Chamberlain, Daladier. C'est là-dedans qu'on a vécu dans la guerre. Mais évidemment, pour la génération suivante, tout ça, le droit commun, c'est la paix. Ben non, le droit commun, c'est la guerre. comme disait De Gaulle dans son dernier discours, la vie est un combat, le succès coûte l'effort, le salut exige la victoire.
Merci beaucoup. Vas-y, Étienne.
Voilà, merci infiniment pour ces éclairages qui nous ont bien précisé ce qu'étaient les défis pour l'Europe. Alors, dans les semaines qui viennent, nous allons probablement, ou dans les sessions qui viennent, nous allons continuer à nous intéresser à l'Europe en vue des élections, avec différents sujets, et probablement un qui va être sur l'agriculture ou la transition écologique, ou les deux en même temps d'ailleurs. Et donc, nous vous attendons avec plaisir au mois prochain pour une nouvelle édition de Mardi d'éthique publique. Je vous rappelle que à la sortie, si vous le souhaitez, pour nous aider à organiser ces réunions, il y a toujours des troncs. Vous pouvez remplir généreusement. Voilà. Merci encore pour tout et merci à vous pour vos interventions.
Merci beaucoup.